Société avec Nick Payne.
Oui, bonjour à tous. Très heureux d'être au microphone pour cette nouvelle édition de Société. Au menu aujourd'hui, nous revenons sur la question autochtone, le rapport du Canada avec les premiers peuples, les premières nations. Choisissez l'expression qui vous convient pour désigner donc les peuples autochtones, ceux qu'on appelait les Indiens autrefois. Nous allons également discuter avec Steve Fortin et Frédéric Bérard des questions entourant le congrès des jeunes du Parti québécois qui a eu lieu en fin de semaine. Ça, ce sera surtout avec Steve Fortin, puisqu'avec Frédéric Bérard, nous reviendrons sur la question des territoires non cédés qui étaient au cœur du litige là, entre les Wet'suwet'en et le gouvernement fédéral. Et puis, en fin d'émission, nous jasons avec Nicolas Vidal en direct de Paris pour revenir sur cette réforme des retraites qui sera adoptée de force par le gouvernement français en vertu de l'article 49 alinéa 3, imaginez-vous, de la Constitution de la 5e République française qui permet au gouvernement français d'adopter un projet de loi sans faire voter l'Assemblée nationale. Alors, ça donne un peu une crise comme nous avons ici lorsque le gouvernement emploie le baillon, sauf que là-bas, c'est un baillon alors extrême, hein, encore plus puissant, puisqu'il n'y a même pas de vote. Et bien sûr, on emploie cette méthode-là pour faire passer la fameuse réforme des retraites qui fait tant débat là-bas chez les Français, chez nos amis, nos cousins, nos lointains voisins français. Alors, revenons d'abord à la question autochtone. Nous avons eu envie d'en discuter avec Joseph Yvon Thériault. Il est sociologue, il était prof de sociologie à l'UQAM, entre autres, fait d'armes, fait marquant à son CV. Il a aussi été à l'Université d'Ottawa. Il publiait récemment, en 2019, je crois, 7 leçons sur le cosmopolitisme, agir politique et imaginaire démocratique. Ça, c'est chez Québec Amérique, mais de nombreux autres ouvrages précédemment aussi. Il est en ligne avec nous, je crois. Bonjour, Joseph Yvon Thériault. Merci d'être avec nous cet avant-midi. Dites-moi, parlons donc de cette question autochtone et j'ai envie de commencer de la façon suivante. Nous avons, parce que je sais que parmi vos domaines de recherche, il y a, je le dis de façon très large, il y a la démocratie et la question de la démocratie a été posée dans ce dossier-là puisque nous avons eu affaire à des chefs héréditaires qui ne représentaient pas le point de vue des chefs dûment élus là, en vertu de la loi fédérale sur ce qu'on appelle la loi fédérale sur les Indiens, donc les conseils de bande. Et ce qui a fait dire à certains que, bon, mais alors, est-ce que c'est démocratique? Est-ce que ces interlocuteurs-là, les chefs héréditaires, sont des interlocuteurs valables? Doit-on négocier avec eux? Et d'autres ont répondu, mais bien sûr, puisque la démocratie ici, en tout cas dans ce cas-ci, est une chose coloniale. Les chefs des conseils de bande, les conseils de bande élus sont le témoin, si on veut, d'une politique coloniale et par conséquent, ils ne sont pas aussi légitimes qu'on voudrait bien le dire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous?
Oui, effectivement, c'est par le biais de la démocratie que je regarde ça. Je ne suis pas un spécialiste de la question autochtone proprement dite. Je m'intéresse aux enjeux de la démocratie et effectivement, c'est une question centrale de la démocratie. Et on s'est aperçu dans cette crise qu'il y avait au moins une double légitimité dans plusieurs communautés autochtones, une légitimité qu'on pourrait dire démocratique, qui était celle de dire qu'il y a des chefs de bande qui sont élus démocratiquement par les femmes et les hommes qui sont qui sont sous la juridiction, et d'autre part qu'il y a une forme de légitimité plus traditionnelle, hein, qui sont les chefs héréditaires, qui sont à la fois pas complètement héréditaires parce que parfois elles sont nommées par les groupes des anciens ou les groupes des anciennes dans le cas de la communauté Mohawk, en fait, évidemment. Mm-hmm. Et que cette question-là, elle est là, je veux dire, c'est la vieille tradition de la manière dont les Autochtones s'autogouvernaient auparavant. auparavant, avant l'arrivée des Européens, si on peut dire. Ce qu'on s'est aperçu, donc, c'est que cette légitimité-là, elle avait été un peu disparue, mais elle a été reconnue, et c'est ce qui complique un peu le problème, elle a été reconnue par les tribunaux, hein, dans une entente de 97, là, concernant justement les Wet'suwet'en. Là, la Cour suprême a reconnu les chefferies traditionnelles comme ayant un droit de regard sur le territoire autochtone.
Sur les questions territoriales, c'est ça, les revendications, on a reconnu donc le principe des plus ou moins là, des terres ancestrales ou des territoires non cédés.
Il y avait des terres ancestrales sur lesquelles il y avait certains droits, mais comme la Cour suprême fait souvent, elle a pas défini quelle était l'étendue de ces terres, elle a pas défini quelle était l'étendue de ses droits, elle a renvoyé au gouvernement provincial, dans ce cas-là, le besoin de négocier qu'est-ce qu'elle serait précisément ces droits-là. Donc, mais de façon générale, moi, je dois dire que j'ai été un peu surpris dans la crise actuelle, là, d'entendre beaucoup de gens de la société canadienne, y compris certains autochtones, mettre sur le même pied de légitimité la légitimité traditionnelle et la légitimité démocratique.
Alors donc, vous faites une hiérarchie, vous, entre ces deux légitimités-là?
Oui, je pense que quand on prend la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il me semble que ce qu'on a appris depuis 500 ans, c'est qu'on n'a pas d'autre moyen de savoir ce qu'un peuple veut que de lui demander par une élection. Et je veux dire, le reste, ce sont des spéculations, ce sont des rumeurs, ce sont des on-dits, etc. Dire oui, reconnaître la légitimité d'une chefferie traditionnelle, c'est correct, mais on doit demander au peuple s'il est d'accord. C'est-à-dire que...
Vous êtes en train de dire que la démocratie n'est pas coloniale. C'est-à-dire que c'est un principe qui va au-delà du rapport qui a pu être colonial ici.
La démocratie qu'on connaît, elle a été inventée en la démocratie qui renvoie au peuple et au peuple dans son unité. Cette démocratie-là, elle a été effectivement inventée par les Européens au 16e, 17e, 18e. Mm-hmm. Et elle s'est surtout implantée au 19e siècle. Elle est très fragile. Mais moi, j'ai appelé ça un peu comme un butin. Hein. C'est-à-dire que il me semble que c'est pas parce que les Arabes ont inventé les mathématiques qu'on ne doit pas croire aux mathématiques. C'est pas parce que les Occidentaux ont inventé la démocratie. Cette démocratie-là, il y a plusieurs formes de légitimité démocratique. Hein. Il y a de la démocratie de participation, il y a de la démocratie de mobilisation, il y a de la démocratie dans la rue. Et on peut dire que d'une certaine façon, hein, l'idée d'une chefferie traditionnelle, ça peut être une façon que s'exprime un peuple. Mais ce que je dis, c'est que en dernière instance, quand on a un conflit, qui décide? Et il me semble que la démocratie dit c'est le peuple. On doit renvoyer ça au peuple. On doit renvoyer ça à ses représentants dûment élus. On doit demander à tout le monde du peuple.
Mais alors, comment compose-t-on, pardon, je vous interromps, mais comment compose-t-on avec ceux qui disent que, oui, fort bien, sauf que cette démocratie a été imposée dans ce cas-ci? C'est un peu comme si le colonisateur choisissait ses interlocuteurs, leur imposait un mode de communication avec l'autre population, si j'ose dire,
mais
l'autre nation.
On doit défendre ce point de vue-là, c'est-à-dire que peut-être que le colonisateur, ce qu'il a imposé, c'est-à-dire on va négocier avec des personnes qui sont élues par votre communauté.
Mm-hmm.
Donc, je pense que c'est une imposition qui est...
raisonnable.
Qui est raisonnable, en autant qu'on la respecte. Hein, qu'on dit. Et la communauté, ça ne comprend pas uniquement des individus, ça peut comprendre des chefferies traditionnelles, mais ultimement, s'il y a un désaccord, il faut que ce soit la communauté qui vote. Dans l'entente de la baie James, la première entente de la baie James, ce cas-là s'est posé précisément, c'est-à-dire que avec qui le gouvernement du Québec allait négocier et qui allait administrer les fonds qui étaient liés à l'entente de la baie James, et qui sont considérables. Les CRIs ont réalisé beaucoup de bien-être avec ça, et ce qui est normal, là, c'est sur leur territoire. Ils sont majoritaires sur ce territoire-là. Il y avait de l'exploitation hydroélectrique qui allait se faire, et on disait qui va négocier ça. Et les CRIs ont accepté de soumettre un référendum interne l'idée de, est-ce que c'est la manière traditionnelle, la chefferie, ce qui exclut habituellement les femmes, hein, ou est-ce que ce sera par un vote
démocratique,
électoral,
là, oui.
démocratique, comme les démocraties le font, et les écrits ont accepté, finalement, de dire, non, cette entente-là sera signée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une tradition autochtone qui va se maintenir chez les écrits à dehors, mais que sur la question de la cité, on va gérer ça à partir de membres qui seront élus démocratiquement par la communauté. Moi, c'est là qu'on voit la fragilité des institutions de la démocratie dans nos sociétés actuellement, où pendant une crise, presque tout le monde se met à dire que la légitimité traditionnelle, ça a le même poids que la démocratie, et on doit se mettre ensemble puis essayer de voir comment les
Ben alors tout le monde revendique sa petite légitimité d'une certaine façon, ce qui m'amène à vous poser une autre question, parce que vous réfléchissez sur, Joseph-Yvon Thériault, sur les défis auxquels font face nos sociétés à une ère d'individualisation et de pluralisation. Est-ce qu'on a affaire à un phénomène comme celui-là en ce moment? C'est-à-dire que voici différentes légitimités, différents groupes. On n'est peut-être pas dans l'individu, mais en tout cas, on est dans peut-être une forme de communautarisme, ou en tout cas de pluralisation, certainement. Est-ce qu'on a vu la limite des promesses de Justin Trudeau, des promesses d'ouverture à la diversité?
Moi, je ne blâme pas totalement Justin Trudeau, parce que je dis, il fait partie d'un système canadien qui comprend aussi la Cour suprême, qui comprend tout un ensemble de développement de nos rapports avec la question autochtone, etc. Et ce que je dois dire, c'est que pendant longtemps, jusqu'à presque à la fin des années 2000, on a probablement en 1981, au moment de la charte, là, à partir de là, ça s'est changé. On parlait avec les Autochtones d'établir un gouvernement autochtone. Un gouvernement autochtone canadien qui serait un ordre de gouvernement, qui serait quelque chose qui serait entre les municipalités, disons, puis les provinces,
oui.
qui aurait un droit de regard sur des territoires, puis qui aurait une entente, puis qui serait un peu universel dans son application sur l'ensemble du territoire canadien. À partir de la Charte canadienne des droits, on a commencé à multiplier les ententes. Il y avait des communautés qui avaient des traités, et donc on disait les traités vont faire office de loi, les traités interprétés par les tribunaux, il y a des ententes nouvelles qui se sont créées avec des territoires qui n'avaient pas de traité, donc on a appelé non cédé, etc. Et aujourd'hui, lorsqu'on va sur la page gouvernementale du gouvernement du Canada, par le site sur l'autonomie gouvernementale, on voit qu'ils ont laissé tomber cette idée d'un gouvernement autonome. Ils disent maintenant qu'il va y avoir des gouvernements autonomes.
Mais est-ce que ce n'est pas une façon de est-ce qu'on n'est pas à gagner du temps, à jouer avec les concepts, à jouer sur la division? Hein, parce qu'il y a quand même, dans le cas de la Colombie-Britannique, on parle de plus de 200 nations autochtones. Est-ce qu'on imagine 200 gouvernements?
Il y a une soixantaine de nations autochtones. Il y a plus de 200. Il y a des groupements là, qui sont différents. Mais
merci de préciser. Oui, oui.
Il y a une soixantaine de... Mais même là, je veux dire, ça m'apparaît une piste qui... ça se fait donc à la pièce. Chaque nation, chaque communauté, selon sa situation particulière, selon son traité, etc. Et donc, on entre de façon générale dans un interminable débat. À chaque fois qu'il va y avoir un problème de territoire, il n'y a pas une règle générale qui s'applique. Il faut passer par la cour, il faut passer par les juges, et je pense que ça va ce qu'on a vu avec la crise récente, ce qu'on a vu à Oka, ce qu'on a vu en Ontario il y a quelques années, etc. Donc, ça va se multiplier parce que le système veut actuellement que les Autochtones, pour faire reconnaître certains droits qu'ils ont, vont être obligés de passer par les cours et de forcer les gouvernements à le faire, parce qu'il n'y a pas de cadre général. On a fragmenté la situation, et je pense que là, quand on dit c'est Trudeau, c'est lui, mais c'est aussi les cours, hein, qui ont orienté. On est dans un système qui a judiciarisé cette question-là jusqu'à la fragmenter à l'infini, d'une certaine façon.
Disons qu'on référait à M. Trudeau un peu comme un symbole, comme le représentant de cette politique plus qui se veut plus diversitaire, si on veut.
Moi, je pourrais vous citer beaucoup d'universitaires spécialistes de la question autochtone qui nous disent non, la question autochtone, c'est un ensemble de légitimités différentes qu'il faut à chaque fois discuter puis négocier.
Mais ça devient impraticable, non? Ça devient tellement fastidieux.
La démocratie, c'est peut-être le débat puis la discussion, mais c'est aussi la gouvernance. C'est aussi gouverner. Cette idée qu'on sera toujours en délibération, sans règle, qu'on les fixera à mesure, et que dans n'importe quel temps, un nouveau groupe peut arriver dire « je suis légitime parce que je parle au nom de la tradition », ben, y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte que ça rendra très complexe. Hein.
On voit déjà, vous et moi, que dans la nation, dans le cas de la nation Wet'suwet'en, on doit comprendre que rien n'est réglé en ce moment-là. Hein? Les chefs ne se sont pas prononcés, ouais. Le pipeline est toujours en construction.
Et puis on sait que c'est pas très clair. Oui, tout à fait. Et on pense même que quand ils vont arriver, après avoir consulté leurs membres de leur clan, que les chefs que les chefs élus vont peut-être dire non, c'est pas comme ça qu'on voyait ça nous. Mais d'autre part, toute l'Assemblée des Premières Nations canadiennes n'a pas été consultée, ou du moins si elle a été consultée, elle n'a pas été officiellement consultée. Ils se sont pas intervenus publiquement dans ce cas-là. Donc il y a quelque chose là qui fait en sorte que on s'embourbe dans quelque chose qui m'apparaît à long terme ingouvernable.
C'est une espèce de comédie, d'une certaine façon. Ouais. Est-ce que... Dites-moi, je vous ai entendu dire déjà que à l'époque de la colonisation, de la Nouvelle-France, finalement, les choses étaient mieux parties d'une certaine façon, ou en tout cas, dois-je comprendre que vous dites que le colonisateur français avait une meilleure approche, une meilleure façon de composer ce qu'on aurait dû et continuer comme ça, ou est-ce qu'au Québec on fait mieux les choses à ce point de vue?
Vous
parliez des cris là tout à l'heure.
Ouais, je pense pas qu'au Québec on fasse mieux. Il y a les cris, on l'a fait, mais on n'est pas exempt d'une crise aussi, même avec les cris, ou parce que effectivement il y a chez les cris aussi, pour avoir une population héréditaire qui dirait on conteste ça, puis si on décide que la légitimité traditionnelle est aussi bien que la légitimité démocratique, ben on va être obligé de composer et de voir. Mais je pense que c'est un fait historique là que les anthropologues ont établi. C'est peut-être pas complètement par le bien du colonialisme français, mais le colonialisme français à l'époque de la Nouvelle-France c'était pas un colonialisme d'implantation, c'est-à-dire on venait pas ici pour fonder un nouveau pays. C'est pour ça qu'on le venait, mais pas comme en Nouvelle-Angleterre où on y allait pour des religieux, et donc il fallait chasser les autochtones qui étaient autour. Ici on venait pour commercer la fourrure et le poisson,
les coureurs des bois.
Et donc, on voyait les coureurs des bois. Et donc, on avait besoin des autochtones. Et on était dans une partie du territoire de l'Amérique où les autochtones étaient nomades. Et donc, il y avait de l'espace assez. Et donc, il n'y a pas eu de guerre entre les francophones, les Français, c'est-à-dire de l'époque, et les Amérindiens. Et il y a eu des alliances. La Grande Alliance des Autochtones en 1701, il y a eu toutes sortes de formes d'alliances. Déjà, Champlain s'était allié avec les Mi'kmaq, s'était allié avec les Inuits. Donc, il y avait...
Vous êtes en train de dire qu'il y avait de la place pour tout le monde, et les peuples autochtones étant nomades, c'était plus... C'était moins litigieux, d'une certaine façon.
Oui, il n'y avait pas une question de... Il n'y avait pas un enjeu territorial. Ça ne s'est pas posé comme ça. Ça s'est pas posé comme ça. Les communautés pouvaient s'établir et commercer entre elles sans nécessairement être en guerre sur des espaces territoriaux, etc. La grande question territoriale au Canada et aux États-Unis d'ailleurs aussi, mais aux États-Unis déjà ça avait été plus problématique parce que les colons de la Nouvelle-Angleterre étaient des colons qui avaient besoin du territoire, d'un espace, parce que voulaient s'y implanter, et ils ont poussé les Autochtones très tôt. Et quand c'est arrivé dans l'Ouest canadien, le développement de l'Ouest canadien et de l'Ouest américain a été d'une certaine façon la cruelle pour les Autochtones, parce que là, on a voulu aussi mettre des colons, puis on a voulu les chasser. Là. Donc, il y a effectivement, je pense, une distinction à faire entre qu'on ne fait pas toujours, parce qu'on parle en termes de droit, comme si les questions se posaient toujours de façon universelle, mais donc la colonisation de la Nouvelle-France, la colonisation anglo-américaine, puis même la colonisation espagnole qui a été différente aussi. Et là, parce qu'on avait affaire à une population très nombreuse, et donc on pouvait pas les déloger comme ça. Au Mexique aujourd'hui, 90% de la population mexicaine se dit encore d'ancêtres autochtones. C'est compliqué à penser qu'est-ce que vous allez dire un droit des autochtones.
Oui,
dans une société comme ça.
En effet. Alors là, justement, en terminant notre entretien, Joseph-Yvon Thériault, je vous mets sur les bras une question lourde et un peu compliquée. Est-ce que... Alors, beaucoup plus tard arrive la loi sur les Indiens, 1876, quelque chose comme ça. Les réserves, c'est une espèce de forme d'apartheid ou de... comme je ne sais pas comment on peut décrire ça, mais est-ce que le nœud du problème actuel est pas là, au fond? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de... Ou alors sciemment... Est-ce qu'on a choisi cette façon de diviser pour mieux régner en atomisant le fait autochtone d'une certaine façon?
Oui, c'est certain que la loi aujourd'hui, le regard extérieur, la loi des Indiens est une loi qui est de même type que l'apartheid, parce que c'est le développement séparé.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on va mettre des communautés en développement séparé. Mais en même temps, il faut voir la complexité de l'histoire. C'est qu'en 1969, quand Pierre Elliott Trudeau a voulu mettre fin à la loi des Indiens en disant que c'est une loi imbécile, on doit reconnaître les Indiens comme des citoyens ordinaires, etc.
Ils n'ont pas voulu.
Les Autochtones ont refusé parce que, encore là, je veux dire, c'est un butin de guerre en disant que ça nous a été imposé, les réserves, mais en même temps, c'est ce qui nous a sauvé de l'assimilation.
Est-ce que c'est pas aussi
la complète intégration dans la communauté blanche? Et donc on veut plus la loi des Indiens, mais on veut conserver maintenant les réserves comme des communautés qui sont retranchées un peu. Donc il faut voir aussi que tout le monde aujourd'hui est d'accord, même, je le disais tout à l'heure, là, si on va sur le site gouvernemental canadien, le gouvernement canadien dit la loi des Indiens, c'est une loi coloniale, qu'il faut se défaire. La question est pourquoi on s'en défait pas? Pourquoi tout le monde, ça veut dire tous les partis politiques canadiens, tous les autochtones vont dire la loi des Indiens, on s'en défait pas parce qu'il n'y a pas un accord, même chez les autochtones, à savoir comment on remplacerait ça. Parce que la loi des Indiens, elle protège les communautés autochtones. Et d'autre part, il faut pas oublier que depuis 80, la loi des Indiens a été assurée de toutes parts, hein, dans le sens que maintenant, il y a une trentaine de communautés autochtones qui sont plus gérés par la loi des Indiens, mais par des traités puis des ententes gouvernementales avec le gouvernement canadien. Donc, c'est un peu comme le parallèle avec la loi 101. La loi 101, elle a,
elle a été
bouleversée. Oui, les gens disent c'est du gruyère parce que la Cour suprême a enlevé des parties qu'elle trouvait gênantes, etc. La loi des Indiens, c'est la même chose. Genre, c'est plus la loi des Indiens de 1867. Là. Il reste un élément, mais effectivement, je veux dire, la solution, à mon avis, va dans ce sens-là. Hein, c'est de dire il faut responsabiliser les Autochtones en leur donnant une autonomie gouvernementale globale et que cette autonomie gouvernementale soit le cadre par lequel se construisent les relations avec et donc il y a des droits, il y a des devoirs à l'intérieur de cette autonomie là, mais à l'heure actuelle on ne va plus vers ça, on va vers du traitement à la pièce.
À la pièce, en composant avec des légitimités qui vont pas toujours de soi.
Différenciées selon chaque groupe. Et moi, je pense que on est vraiment dans le gruyère aussi là, hein, parce qu'on se dit ben non, le Canada va, le gouvernement canadien va être en négociation totale avec une soixantaine de gouvernements ou d'entités dont chacune n'a pas le même pouvoir, chacune n'a pas le même rapport à l'histoire, chacune n'a pas le même rapport au traité, etc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de dire, oui, les Autochtones sont là, hein, ils ont des droits, ils ont des territoires qu'on doit protéger, mais en même temps, il y a une obligation de cohabitation avec la société canadienne. Cette obligation-là, c'est pas par sanglots de l'homme blanc qu'on va régler ce problème-là, mais c'est par une vraie politique avec eux et une espèce de franchise en disant oui, on reconnaît des droits, mais vous devez reconnaître la coexistence sur notre territoire aussi, et donc ça implique des choses.
Vaste programme, comme disait une personne célèbre. Avec toutes ces images sur le Gruyère, Joseph-Yvon Thériault, vous avez ouvert notre appétit juste avant l'heure du dîner. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce matin. C'était un plaisir.
D'accord. Au revoir.
À une prochaine. Dans un instant, nous discutons avec Frédéric Bérard. Juste pour rebondir sur cette question-là, là, on va regarder du côté du concept des territoires non cédés, voir un peu les tenants et aboutissants de ça. On va jaser de ça quelques instants avec Frédéric Bérard, puis ensuite Steve Fortin et Nicolas Vidal. À tout de suite. Ah, ça y est, c'est Nick Payne de retour avec vous. Je pense que Frédéric Bérard est en ligne. Oui, nous avions commencé à discuter avec lui la semaine dernière de la question des territoires non cédés. Question épineuse et complexe et qui revient beaucoup dès qu'il est question des Autochtones dans le débat public et des revendications des Premières Nations aussi. On le rejoint immédiatement, imaginez-vous, en Jamaïque. Alors, Frédéric Bérard, on ne vous gardera pas trop longtemps en ligne en ce beau milieu de journée, sans doute ensoleillé chez vous.
Ben, en fait, ça, c'est drôle parce que là, il pleut.
Ah bon?
Et puis, l'autre affaire, j'ai compris que si on était ça un peu, je vais empiéter sur le temps de Steve Fortin.
Bon, mais ça, c'est toujours pareil. D'ailleurs, c'est votre rôle,
c'est
vous.
Ça.
C'est de laisser le moins de place possible à Steve Fortin.
Toujours avant lui, non l'inverse.
Oui, c'est ça. Alors, dites-moi, on avait eu des problèmes. Vous étiez tout près d'ici, puis on vous entendait mal la semaine dernière. Là, vous êtes dans les Antilles, puis on vous entend super bien.
Parce que j'étais à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, il y a une... Une espèce de déconnexion naturelle entre vous et lui.
Là, ah oui, c'est le coronavirus qui interférait, allez savoir. dites-moi, on était en train de parler des territoires non cédés. Je vous demandais à quoi on a affaire exactement lorsque les Québécois et les Canadiens pensent à cette question. Ils pensent partition, ils pensent ça fait peur. Nous avons tous vu ces cartes qui nous montrent le Québec duquel on a effacé les deux tiers pour les donner aux Autochtones ou je ne sais trop. De quoi s'agit-il si on revient, si on essaie de corriger le problème des territoires non cédés? Est-ce qu'on va se retrouver avec des zones qui seront extraites du Canada ou du Québec et ce qui fera dire par conséquent aux Autochtones, comme on avait entendu quelqu'un le dire là, à Kanawake, bien ici, ce n'est pas le Canada, c'est encore moins le Québec, c'est Kanawake, puis vous n'êtes pas chez vous, puis bon. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Quels sont les tenants et aboutissants? Quelles sont les possibilités dans ce dossier-là, dans le dossier du territoire spécifiquement?
Mais en fait, vous avez raison de dire que quand le Québec a joint la Fédération canadienne, il y avait le tiers du territoire d'aujourd'hui. Hein, là, on a greffé à ça une portion très, très appréciable depuis. Sinon, en fait, à vrai dire, la question ici ne se réglerait pas en vertu du droit interne canadien, mais en vertu du droit international. Je m'explique, en vertu du droit constitutionnel canadien, les Autochtones ont certains territoires là, à plusieurs endroits à travers le pays, mais c'est considéré comme faisant partie du territoire canadien. Ça fait pas de doute. Le droit constitutionnel est clair là-dessus. Évidemment, les Autochtones...
À l'international, vous voulez dire?
Ben, en fait, là, je parle du droit interne canadien.
Ben oui, c'est ça.
Là-dessus, c'est clair, les territoires autochtones font partie... du territoire canadien. Il n'y a pas de distinction à faire, autre, évidemment, sur les questions de droits ancestraux.
Ben alors, je vous arrête tout de suite, juste une seconde. Est-ce que ce que les Autochtones demandent, c'est qu'on change ça? C'est que ces territoires-là sortent du Canada ou on cherche une forme de gouvernement?
En fait, je réponds à votre question hypothétique qui est celle de la partition, essentiellement. Mmh. Alors, ce que je réponds à ça, c'est qu'en droit interne, les Autochtones n'ont pas de, en droit interne canadien, on s'entend, les Autochtones n'ont pas de droit comme tel à une partition particulière. Là. Ça fait pas de doute. Cela dit, et là, c'est là que ça devient intéressant, en droit international, il y a deux concepts qui sont applicables ici. Le premier, qu'on appelle le droit à l'autodétermination interne, et le deuxième étant le droit à l'autodétermination externe. Celui qui est interne vous dit que chaque peuple à travers la planète essentiellement a un droit de s'autodéterminer, a le droit de s'autodéterminer à l'intérieur même des frontières de l'État. C'est le cas du Québec dans le Canada, mm-hmm. et c'est le cas des Autochtones aussi au Canada. Et c'est d'ailleurs, malheureusement, la dernière fois, on s'est fait couper le sifflet, mais ce que je suis en train de vous dire, en parlant seul dans le vide, c'est qu'à l'époque, on se rappelle, dans à l'époque de l'accord de Charlottetown, on avait prévu un palier gouvernemental pour les Autochtones. C'est-à-dire, on avait mis un moratoire de 3 ans là-dessus. On dit votez oui, puis on vous dira après comment ça marche. Finalement, les Autochtones avaient voté contre. Mais ça, c'était une manière, en fait, de mettre en pratique concrètement le droit à l'autodétermination interne des Autochtones. C'est-à-dire, vous demeurez dans le Canada et donc dans le Québec, mais vous pouvez vous autodéterminer, ce qui impliquerait. Évidemment, la question n'a jamais été résolue parce que Charlottetown a foiré, mais ce qui impliquerait, par exemple, certaines compétences en matière d'éducation, en matière de santé, par exemple. Or, l'autre droit, et là, c'est là que ça devient complexe, l'autre droit en jeu ici est le droit à l'autodétermination externe, qui, lui, est ce qu'on appelle un droit à la sécession remède. Remède dans quel sens? C'est que lorsqu'il y a une ou plusieurs des 3 conditions, je vais vous expliquer dans un instant, qui sont rencontrées, à ce moment-là, le peuple en question peut faire une sécession dite remède. Remède à quoi? Remède, par exemple, à une oppression. Donc, il y a 3 conditions. La première, est-ce que le peuple est colonisé? Ici, bon, il faudrait que les Autochtones soient capables d'en faire la preuve, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui n'est pas nécessairement simple. L'autre manière, c'est est-ce que les Autochtones sont envahis par une force étrangère? Ça, ici, je pense que ça ne s'applique pas tellement. C'est beaucoup plus, par exemple, si on se réfère à ce qu'avait fait
Avec le Koweït. Oui, c'est comme si on avait pris nos précautions hein, en permettant des corps de police. C'est ça, ils ne sont pas en situation là, de colonisation armée à tout le moins.
Et voilà, mais regardez bien par contre, Nick, la 3e condition, celle-ci, elle devient intéressante dans l'optique où elle devient plaidable, je pense, en droit international, c'est s'il y a une violation du droit à l'autodétermination interne. Et là, on s'entend qu'on nage en plein subjectif, ça va de soi, mais si les Autochtones, et là, je parle des Autochtones comme si c'est un bloc monolithique, ce qui n'est pas le cas, hein, parce qu'il y en a 615 nations au Canada, mm-hmm. mais si les Autochtones étaient capables de démontrer que leur droit à l'autodétermination interne au Canada était violé, de ce fait-là, il pourrait, à ce moment-là, invoquer le droit à la sécession remède et, par définition, créer, constituer une entité indépendante, c'est-à-dire un pays.
Mais est-ce que c'est dans leur intérêt? Toute la question est là aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment avoir un pays de 600 personnes en plein milieu d'une province canadienne?
Évidemment, on s'entend bien que non, dans ce cas-ci, ça me semble irréalisable. Mais je vous donne juste l'état du droit à l'international qui ne distingue pas les peuples en termes de nombre. Hein. C'est vraiment...
C'est ça. Donc, théoriquement, ça peut aller là, mais ça, évidemment, on n'est pas dans la politique, là, on est vraiment dans le droit. Donc, forcément, il y a d'autres paramètres.
Vous savez, par contre, que le droit international est par définition très politique aussi. Et ce que je vous invoque là, je ne vous dis pas mm-hmm. que ça fonctionnerait. J'aurais des doutes très sérieux, d'une part, sur la question que vous venez de soulever, c'est la question de la faisabilité. On a 615 nations... On ferait 615 petits minuscules pays à gauche et à droite, évidemment, je pense pas. Mais l'autre raison, c'est que le droit à l'autodétermination externe est excessivement difficile à plaider. La meilleure preuve de ça, Nick, regardez par exemple les Catalans aujourd'hui.
Ben oui, exactement.
Qui sont coincés en Espagne parce que Madrid s'est réfugié bêtement, sauvagement derrière le droit en disant la Constitution ne permet pas ça, fermez vos gueules, rentrez chez vous, puis by the way, votre référendum est inconstitutionnel, qu'on vous fout en prison.
Donc, vous êtes en train de nous dire que le droit international est aussi dicté, est aussi le fruit de la politique, des rapports de force et autres.
Ben oui, évidemment, je dirais pas en penser autrement, là, c'est croire à Alice au Pays des Merveilles, là, c'est bien Alice, mais ça... Oui. C'est pas la réalité, là. On s'entend bien.
Alors donc,
les Catalans pourraient plaider ce droit-là, vous voyez, puis même eux, hésite à le faire, ne l'ont pas fait actuellement parce qu'ils se disent, probablement qu'on a zéro chance ou à peu près. Donc, probablement que ça serait difficile pour les Autochtones, bien que la situation est quand même particulière.
Oui, bien, dans le cas des Catalans, on pourrait toujours plaider que les matraques sont sorties, tout ça, mais bon, bref. Alors, donc, revenir aux...
Est-ce qu'on viole un droit démocratique? Oui. Est-ce que ça peut équivaloir à la violation d'un droit d'autodétermination interne? Moi, je pense sincèrement que l'argument se fait. Mais le droit international et ses instances judiciaires étant ce qu'elles sont, c'est difficile. Même le Kosovo, n'avait pas plaidé le droit à l'autodétermination externe à l'époque. Ça vous donne une idée, là?
Oui, c'est ça.
Il a réussi autrement, là, par une espèce de concours de circonstances en plaidant l'effectivité, bon, un truc un peu abracadabrant, mais bref, ça reste très, très, très difficile.
Et dans le cas de la Catalogne, il n'y a qu'à voir au point de vue politique l'absence absolue d'appui, quel qu'il soit, à la démarche des Catalans, là, même s'il y avait un début de possibilité de plaider ça d'une façon ou d'une autre. Donc, si je comprends bien, pour conclure, là, dans le cas des peuples autochtones au Canada, on peut imaginer que les revendications sur les territoires dits non cédés peuvent mener à des formes de gouvernement intermédiaire, comme ce dont nous parlait Joseph Yvon Thériault juste avant vous, ce qui est dans les cartons, ce qui plane, ce qui est un peu dans l'air depuis longtemps au Canada, mais ce à quoi on n'aboutit jamais beaucoup, cependant, ça c'est une autre question. Ben, Frédéric Bérard, c'était très, 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 très éclairant et concentré comme propos. On va aller réfléchir à ça et on va vous laisser vous magasiner un parapluie jamaïcain. Vous dites ça sans vous...
Je vais au magasin de nouvelles pâtes de potes pour rentrer à la maison.
Sans vouloir vous narguer. Ah oui, bon, mais parfait. Bon, ben allez, on vous en souhaite une belle et à une très prochaine à l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là.
Vous m'avez vu, vous saluerez Fortin, là.
Parfait. Merci. Salut.
Salut.
De retour à Société avec Nick Payne. Steve Fortin est avec nous dans 3 secondes parce que nous allons parler des jeunes péquistes qui se réunissaient en fin de semaine. Ils rencontraient les aspirants à la direction du Parti québécois. C'était un premier bain de foule, en quelque sorte, de ce type-là, là, pour les... Il y avait 5 candidats, là, outre les 4 plus connus, Nantel, Saint-Pierre Plamondon, Bastien et Gaudreau. Il y avait également cet homme d'affaires de la région de Québec dont j'oublie le nom de famille, mais Steve Fortin va nous dire c'est qui, s'il s'en souvient lui-même. Bonjour, Steve Fortin.
Hey, salut, comment ça va?
Bien, vous êtes en forme, donc vous avez suivi ça?
Ben oui, j'ai suivi ça, j'ai regardé... Je regardais ça quand même, puis je portais attention parce que c'est un rendez-vous quand même important. Le congrès, tu sais, il faut placer ça aussi dans son contexte. Moi, je veux bien que les jeunes des partis politiques soient ceux qui brassent la cage un peu. Puis quand ce sont les jeunes de la CAQ ou du Parti libéral qui se rencontrent, des fois il y a des propositions qui sortent de là, puis ça étonne les gens. Mais tu sais, c'est ça, c'est ce qu'on veut. On veut que les jeunes se positionnent. On veut que ceux-ci brasse la cage un peu, puis...
Alors, dans ce cas-ci, ils ont pris des positions plutôt à quoi? À gauche, disons, là, réduire le temps, la semaine de travail, il y avait autre chose aussi, là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propositions-là, vous?
Ben c'est ça. Là, d'entrée de jeu, là, on avait des grandes orientations tout de suite la première journée, fait qu'on disait, ben voilà, on aimerait que le Parti québécois parle beaucoup, 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 beaucoup d'environnement, puis on veut pas nécessairement qu'on parle de laïcité. Ça a commencé comme ça. Moi, je me suis dit, bon, ben OK, là, si ça commence comme ça, puis si on commet la même erreur qu'en 2018, puis qu'on se dit, ben on va essayer de se coller le plus possible à gauche, puis quitte à essayer de chercher des votes un peu à gauche, des gens qui vivotent peut-être, en reste-t-il encore, entre Québec solidaire puis le PQ, ben là, moi, je me suis dit, OK, on va marquer une pause parce que le dossier de la laïcité, du vivre ensemble, ça va continuer. Les gens qui contestent la loi 21 ont des moyens faramineux. Donc, c'est clair que ça va se rendre jusqu'en Cour suprême. Ça peut être long.
Alors là, vous dites, au fond, les jeunes péquistes nous donnent une tonalité plus à gauche, trop à gauche, trop près de Québec solidaire. La question que ça pose, c'est est-ce qu'il reste de la place entre la CAQ et QS? Pour le Parti
oui, reste
québécois.
La place. Oui, reste de la place. Puis, justement, sur la question de laïcité, moi, je rappelle aux gens que fin 2019, quand Jacques Bégélina avait quitté Québec solidaire, là, l'auteur, celui qui était chez Éco-Société, là, le sociologue, quand il avait quitté Québec solidaire, il avait signé une lettre là, qui était vraiment assassine. Là. C'est un texte coup de poing où il rappelait que Québec solidaire avait été fondé en 2006, et j'y étais, avait été fondé sur des principes de laïcité notamment. T'sais, c'est un des principes fondateurs de ce parti-là. Puis lui, il disait, ben voyons, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis la semaine passée, dans un texte, où je parlais de la gauche qui est une partie de la gauche qui est en train un peu de faire exploser cette espèce de coalition qui a déjà existé. Ben on est là-dedans. Puis il faut que le Parti québécois, moi j'ai pas de problème à ce qu'on soit à ce qu'on penche à gauche, même je le souhaite, je l'espère, mais il faudra quand même qu'on conserve ce principe-là absolument fondamental de la défense de la laïcité. Puis je suis content que les jeunes du PQ, par exemple, on dit ben voilà la fin du financement des écoles privées. Puis j'ose espérer aussi donc qu'on va colmater cette brèche-là dans la loi 21, immense, très très électoraliste, parce qu'on sait que les écoles privées confessionnelles au Québec sont à 90% catholiques. Fait que moi j'avais déjà écrit un texte là-dessus où je parlais de la catho-laïcité de la CAQ, parce que on voulait pas froisser quand même un large segment de l'électorat qui plutôt favorable là, à ce parti-là. Fait qu'on a exclu ça de là, mais écoute, ça fait comme une espèce de gruyère, tout ça, puis on peut vraiment se demander, ben si on ne va pas jusqu'au bout du principe, parce que c'est un principe, la laïcité doit s'appliquer à tout le monde de façon égale, ben il devrait s'appliquer aussi aux écoles, toute école qui reçoit des subsides de l'État.
Alors ça, c'est la question de la laïcité. Maintenant, les propositions à caractère économique ou social des jeunes péquistes, la semaine, est-ce que c'est la semaine de 35 heures?
Oui, la semaine de 35 heures, bon, je veux bien qu'on regarde ça. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on regarde ça. Je veux dire, là, on devrait aussi s'attaquer donc à un salaire minimum garanti. On devrait, tu sais, il faut être capable de mieux encadrer si on veut le travail à faible coût. Puis s'il y a une chose qu'on sait maintenant, c'est que dans cette espèce de lubie là, parce que c'en est une là, en grande partie, cette espèce de lubie de la grande pénurie d'emplois, en grande partie, ce sont des emplois qui sont mal payés, ce sont des emplois qui sont au bas de l'échelle. Puis, tu sais, pour avoir fait une tournée à un moment donné dans le centre du Québec où je suis allé rencontrer des gens qui, justement, m'avaient demandé, ben viens nous voir, on va t'en parler de la pénurie de main d'œuvre. Puis tu te rends compte, par exemple, en visitant des restaurants, des franchisés de restauration rapide. Par exemple, je suis allé en voir qui étaient sur le bord de l'autoroute, là, qui ont une très grande, sur le bord de l'Avin, qui ont une très grande fréquentation, tout ça. Puis je veux dire, entre le Tim Hortons, exemple, puis l'AEW où j'étais allé, ben le propriétaire franchisé de l'un et de l'autre me disait, sais-tu quoi, ben écoute, on est obligé de commencer à payer à 14,80$ pour avoir des gens qui vont rester puis qui vont venir. Puis un travailleur de nuit, ben il faut lui donner des primes, puis il faut donner des primes aux employés pour qu'ils restent. Mm-hmm. Puis ceux qui s'en grimper les salaires. Puis, je veux dire, tu sais, il faut être capable de parler de ces choses-là. Puis, il faut être capable de parler de conciliation travail-famille. Il faut être capable au Parti québécois d'expliquer que le virement vers la maternelle 4 ans, puis moi, ça me fait rire quand je vois les annonces à la télévision de la CAQ qui vante la maternelle 4 ans pour en avoir visité. Je dis pas qu'il y en a pas qui sont modernes et tout ça, là. Mais en tout cas, dans notre région, c'est une catastrophe, cette histoire-là. Tu sais, c'est pas tout le conte de fées qu'on nous balance. Il faut être capable au PQ de dire, ben savez-vous quoi, les CPE, c'est vers là, la science nous pointe vers ça, il faut vraiment pousser de toutes nos forces pour les CPE qui vont nous aider à réduire les inégalités hommes-femmes, entre autres, parce qu'on va renvoyer les femmes plus rapidement sur le marché du travail en moussant les CPE. T'sais, il faut être ce parti-là. Il faut que le PQ soit ce parti-là qui l'incarne. Et oui, il y a des mesures là-dedans qui sont social-démocrates, qui sont à gauche, puis il faut les défendre, puis il faut les mettre de l'avant.
Revenons aux chefs, aux aspirants-chefs. Ils rencontraient ces jeunes lors de ce congrès en fin de semaine. Est-ce que vous avez eu l'impression, vous, qu'il y en a un qui trouve plus davantage écho chez les jeunes? Je ne sais pas, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui fait jeune, qui n'est plus tout à fait jeune, mais qui est sans doute celui qui a, à tout le moins physiquement, qui donne l'impression de la jeunesse, si on le compare à un Gaudreau qui n'est pas beaucoup plus vieux, là, ou l'autre candidat dont je parlais tout à l'heure, c'est Laurent
Vézina. Oui, il y a Frédéric Bastien, il y a Guy Nantel, puis l'homme d'affaires.
Laurent Vézina.
Oui. Laurent Vézina, oui.
Qui s'est pointé là, un peu comme un cheveu sur la soupe la dernière minute. Bref, est-ce que quelqu'un colle? Est-ce que quelqu'un fait recette auprès des jeunes, d'après vous?
OK. Là, il y a une chose tout de suite. Là, avant de même de dire quelques mots sur les chefs, je veux dire un truc. J'espère, et là, on s'est calmé un peu là-dessus, mais j'espère que le Parti québécois, la chefferie, ne va pas se jouer, par exemple, sur How low can you go, là, tu sais, là, comme une espèce de limbo, là, qui va baisser le plus les seuils d'immigration, tout ça. Je suis content qu'on n'ait pas trop perdu de temps avec ça.
Frédéric Bastien en martèle ce thème-là.
Ouais,
beaucoup.
Mais si la chefferie du PQ se joue là-dessus, on est dans le trouble.
Pourquoi donc? Parce que parce que le sujet est usé ou parce que la CAQ occupe déjà le terrain ou parce que c'est contre-productif?
Ben, parce qu'on ne règle, on ne règle pas une question comme celle-là. J'espère qu'on ne choisira pas une question, on choisira pas un chef en fonction de cette question-là, qui serait comme l'espèce de ballot question dans la boîte pour ceux qui vont aller voter pour le chef en se disant, ben voilà, on veut celui, tu sais, on serait dans le full identitaire où on dit, ben non, on veut fermer la frontière le plus possible. Et ça ne se règle pas comme ça. Régler les seuils d'immigration, c'est une question qui est éminemment complexe, puis on ne va pas... je veux bien là, que certains argumentent, puis justement, sur son site Internet, Paul Saint-Pierre Plamondon explique son chiffre de 35 à 40 000, puis il dit exactement pourquoi. Bon, ben parfait. Mais, je veux dire... Moi, j'aime pas que quelqu'un s'engage puis dise, ben moi, si je suis élu, je vous promets qu'on va en avoir pas plus que 25 000. Pourquoi j'aime pas ça? Parce qu'il y a un paquet de facteurs qu'il faut qu'on analyse. Puis quand ça va être le temps de je sais pas, fixer ce chiffre-là, ben ça sera pas uniquement. Oui, c'est sûr qu'il y a une fonction politique là-dedans, mais ça va plus loin que ça. Puis il faut se poser un paquet de questions même en amont. Puis j'ai aimé l'intervention de Guillaume Marois, le démographe, quand il lançait la question la semaine passée sur ses réseaux sociaux. Il disait, mais quel Québec on veut un Québec à 15 millions, on veut un Québec quand on le projette à 9 millions.
C'est la question d'une politique de population, au fond. C'est pourquoi c'est on...
Là, notre dénatalité, on peut la calculer, on sait où on s'en va, on est capable de faire des projections. Appelons des démographes aussi comme Marc Termotte qui a travaillé à l'Office québécois de la langue française. On veut savoir, on veut comprendre ça, mais on peut pas lancer des chiffres comme ça avant même d'avoir pris le pouvoir puis d'avoir tous les leviers pour décider de ça, parce qu'on sait pas où ça va nous mener en amont. Bon, il faut vraiment travailler ça. C'est beaucoup plus complexe que le simple fait d'essayer de politiser la question pour en faire un gain politique.
Alors, le concours de chiffres, là. Oui,
tout à fait.
Alors,
oui.
Ça, c'est l'aparté sur les seuils d'immigration. Maintenant, les chefs et les jeunes. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui obtient la faveur, d'après vous?
Ben, moi, je vais dire que Paul Saint-Pierre Plamondon fait une très bonne campagne. Puis, j'écoute, moi, je n'ai pas appuyé personne, là, et j'ai pas pris le parti de personne là-dedans. Mais je peux dire que jusqu'à maintenant, il fait une excellente campagne. Il fait une campagne sur les réseaux sociaux. J'aime tout le matériel qu'il produit. J'aime beaucoup ce que je vois. Tu sais, j'aime ça, c'est la façon qu'il y a de se présenter. Puis effectivement, il va, Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a un ascendant, en tout cas, sur un segment un peu plus jeune de l'électorat. On ne peut pas le nier, ça. Disons aussi que le tandem Stéphane Anfield puis Sylvain Gaudreau, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce tandem-là aussi.
M. Gaudreau martèle son objectif là, d'être le premier choix que le Parti québécois soit le premier choix des jeunes de 18 à 35 ans. Là, il y a loin de la coupe aux lèvres pour le moment.
Oui, mais faut faire attention. C'est aussi je veux quand même peut-être référer à quelque chose qui est super intéressant. Après chaque élection fédérale, Frank Graves de ECOS produit une longue étude sur les différents segments d'électorat. Puis, tu sais, par exemple, sa grande donnée par rapport à 2015, là, ce qui était ressorti de son étude de 2015, c'était que 2011 et 2015 avaient confirmé une chose pour lui. De plus en plus de gens, toutes tranches d'âge confondues, attendent le plus loin possible dans l'élection pour faire et asseoir leur choix. Et c'est encore le cas en 2000, ça a encore été le cas en 2019, soit dit en passant. Donc, il y a un large segment d'électorat, même chez les jeunes, et ça comprend le Québec, qui se sont décidés à la dernière minute. Si on veut, l'espèce de les jeunes sont plutôt Québec solidaire, ou les jeunes étaient plutôt du côté du NPD ou des Verts, ben, ça n'a pas tenu ça. Ça s'est décidé toujours, ça se décide toujours plus tard dans la campagne, ça. Et ce qui fait en sorte que de plus en plus, les stratèges de campagne électorale regardent les derniers jours, les dernières semaines de la campagne, puis ils vont programmer aussi des annonces qui vont viser certains secteurs, certains segments de l'électorat en fonction d'où on est rendu dans la campagne et surtout en visant les derniers jours et la dernière semaine. Fait que ça va être comme ça aussi pour le Parti québécois. Il y a certainement une façon pour le Parti québécois de trouver son chemin pour aller chercher et aller se positionner dans ce segment d'électorat-là, les plus jeunes. Mais en même temps aussi, il faudra que le Parti québécois garde en tête qu'il doit être une coalition et que s'il ne met pas de l'avant son objectif numéro un, qui est l'indépendance, il n'y a pas de segment à aller chercher. Là. Et là-dessus, je suis content de voir que les jeunes ont l'air de pousser fort. Moi, je suis pas sûr, on s'en est parlé la dernière fois.
Vous n'êtes pas en faveur des concours de calendrier référendaire,
non,
c'est
tout.
Ce que
moi,
vous appelez.
Le référendum, je veux même pas, je veux pas qu'on me dise quelle date on va le faire. Moi, je veux qu'on me dise comment on va travailler.
Alors là, vous avez Frédéric Bastien qui se démarque et qui dit le référendum, c'est la fin du monde. Si on promet un référendum, nous allons perdre. Regardez l'exemple d'André Boisclair. Est-ce que c'est pas, en même temps, ça, le discours de Jean-François Lisée, de Pauline Marois, de tant d'autres on est bien obligé de voir que le Parti québécois, sous un tel discours, s'est rendu dans les marges justement dans la marginalité.
Ben là, écoute, ben sincèrement, là, juste comme ça, moi, j'ai tendance à me dire à peu près la même chose. Si on s'en va là-dedans et on dit, ben, on vous promet dans les deux premières années du mandat un référendum rapide et tout ça, premièrement, on va l'organiser comment? On n'a même pas encore compris et complètement analysé tout ce qui s'est passé en 1995, parce qu'il y a bien des gens qui ont mis ça sous la couverte. Veut-on vraiment passer par le référendum dans cet état-là où, selon moi, en tout cas, de toute façon, l'État fédéral ne reconnaîtrait même pas le résultat d'un tel exercice.
Vous ouvrez un autre débat. Est-ce qu'il faut que ce soit par référendum ou autrement?
J'ai tendance à ne plus croire à ce moyen-là. Puis je veux qu'on me présente, on a fondé l'IRAI, Pierre-Carl Péladeau, mais je veux dire, maintenant l'IRAI existe, qu'on me présente plutôt, qu'on travaille, qu'on saisisse tous les leviers, tous les mécanismes de l'État pour travailler à faire l'indépendance, parce que nos adversaires, quand ils ont les leviers, eux, ils préparent le fédéralisme.
Le candidat Bastien, lui, c'est pas ça qu'il dit. Il dit plutôt un référendum, oui, mais plus tard. C'est pas la même chose.
Ce que je plaiderais, en tout cas, c'est plutôt...
On change de moyen.
On change l'angle complètement. Mm-hmm. Expliquez-moi comment, jour 1, vous allez vous saisir des leviers de l'État pour préparer l'indépendance, parce que le Parti québécois est un parti résolument indépendantiste et il ne se cachera pas. Il va expliquer que les partis fédéralistes se servent de tous les leviers du pouvoir pour essayer d'asseoir le Québec dans le Canada.
Donc les souverainistes devraient faire la même chose.
C'est un des outils. Donc expliquez-moi comment vous allez faire ça, puis... Tu vas voir que ça va aller assez vite, qu'on va frapper un mur à un moment donné, puis on n'aura pas le choix de prendre cette décision-là. Bon. Le fera-t-on par élection référendaire, mais on travaillera aussi à ça, à préparer le moyen.
Steve Fortin, allez réfléchir à ça, là, puis revenez-nous avec une proposition claire et concrète là-dessus, puis on vous suit dans la chefferie.
Au plaisir,
toujours un plaisir. Allez vous épivarder. Merci, à la prochaine. Dans un instant, Nicolas Vidal nous parle de la réforme des retraites et de l'usage sulfureux du 49-3 par le gouvernement français. On vous explique ça dans un instant. Alors, nous voilà de retour pour aller faire un petit saut du côté en France, de l'autre côté de l'Atlantique. Nicolas Vidal nous y attend bien sagement au bout du fil. Bonjour Nicolas Vidal.
Bonjour Nick, comment allez-vous?
Bien, merci, vous aussi, merci d'être avec nous cet après-midi, ce soir pour vous presque, cet avant-midi pour nous. Voilà. Alors, l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de la 5e République française stipule que ou permet au gouvernement de faire adopter une loi sans passer par le vote de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? C'est de ça dont on parle ici. Et c'est ce que veut faire le gouvernement d'Édouard Philippe en ce qui a trait à la réforme des retraites. C'est ce que le premier ministre a annoncé le 29 février dernier. C'est bien ça?
C'est exactement ça, Nick. Vous avez bien résumé la situation. Donc là, on se retrouve au stade de la loi en première lecture, hein, parce qu'elle va partir au Sénat, cette loi. Et bien entendu, le 49-3 a été utilisé effectivement à plusieurs reprises. Mais la particularité du 49-3 actuel, c'est que d'habitude, le 49-3 a été utilisé quand la majorité des députés de cette majorité n'était pas forcément vouée à accepter la proposition de l'exécutif. Et là, aujourd'hui, elle est passée en force, finalement, pour certains diront, pour museler l'opposition. Donc, sur une loi, je le rappelle, qui est la réforme des retraites. C'est une loi des plus importantes de la Ve République. C'est celle qui a fait le pacte social de la France depuis le Conseil national de résistance, puisqu'on parle bel et bien des retraites, c'est-à-dire ce qui va conditionner nos retraites pour 50 ans ou 100 ans à venir. Donc, effectivement, depuis le 49-3, d'ailleurs, on rappellera qu'ici, en France, nous sommes en pleine épidémie de coronavirus. Cela ne vous aura pas échappé, c'est un peu la panique à bord. Mm-hmm. Le Premier ministre a fait passer cette loi samedi dernier à 18h. petite info, petite anecdote, que c'est toujours intéressant d'avoir les coulisses du Parlement, que ce soit chez vous ou chez nous. Le Premier ministre aurait fait envoyer un texto 10 minutes avant aux députés de la majorité pour qu'ils reviennent en séance et pour leur expliquer que le Premier ministre allait venir au pupitre, au perchoir, comme on dit, pour annoncer le 49-3. Donc voyez-vous, Nick, c'est vraiment ici perçu, même pas que par l'opposition politique, ou par une bonne partie des gens ici, comme un passage en force 49-3. C'est assez brutal, c'est violent.
Oui, alors nous avons ici, Nicolas Vidal, vous ne le savez peut-être pas, un procédé parlementaire qui s'appelle le baillon, à travers lequel le gouvernement ne peut pas adopter la loi sans faire voter l'Assemblée nationale, mais du moins force le vote en coupant court au débat. Et chaque fois que ça se produit, nous avons la même chorégraphie, donc les oppositions qui crient au déni de démocratie, puis ces mêmes oppositions, lorsqu'elles arrivent au pouvoir, font usage à leur tour du baillon, un peu comme c'est le cas chez vous avec le 49-3, même si avant Manuel Valls, là, il y a eu une période pendant laquelle on n'avait pas usé de cette disposition dans la Constitution. Mais donc, est-ce que c'est une chorégraphie ou est-ce que les Français suivent le gouvernement dans ce geste-là, malgré l'opposition à la réforme?
Alors, il y a manifestement une majorité de Français qui sont opposés à la réforme des retraites. Donc, vous imaginez bien par voie de conséquence, ils sont opposés à la réforme des retraites parce que, comme je vous le dis, c'est vraiment une loi centrale. C'est une loi qui va conditionner la retraite d'énormément de Français, des millions de Français. Et c'est vrai que plusieurs voix se sont portées, même de citoyens ou de responsables politiques, responsables syndicaux. J'imagine aussi les Gilets jaunes étaient là, dans le concert de huées, pour proposer un référendum. Il aurait été peut-être effectivement envisageable sur une loi aussi centrale, qui fracture le pacte social de la France depuis 45. Il aurait été quand même bien de faire un référendum. Alors, et la mobilisation qu'on continue toujours en France sur cette fameuse 42-3. Réforme des retraites, puis 49-3. Et je pense qu'Emmanuel Macron, pour ne rien vous cacher, est allé un peu trop loin, en mon sens, là-dessus, parce que maintenant, certains qui ne s'étaient pas trop prononcés sur la réforme des retraites, ou du moins avaient laissé le cours à libre imagination à tout un chacun, commencent à dire que ce 49-3 était bien trop brutal pour nos institutions et au vu du climat absolument délétère qui règne dans ce pays depuis 2 ans. Vous savez, on en a parlé à nombreuses reprises sur votre antenne. Effectivement, je crois que c'est c'est une nouvelle mèche sociale qui est en train d'être allumée. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Il y a une très grosse manifestation, au moins une grosse manifestation. Elle est annoncée telle quelle sur les réseaux sociaux le 14 mars. Ça pourrait être l'acte 70 des Gilets jaunes, parce qu'on est déjà à l'acte 70, faut ne pas l'oublier, et qui va être, les cohortes vont être augmentées avec les gens qui sont contre la réforme des retraites.
Donc, êtes-vous en train de me dire qu'il n'existe pas une forme de, sinon de majorité silencieuse, disons de bloc silencieux important qui se dit, bon, allez, ça suffit l'obstruction parlementaire, c'est bien que le gouvernement passe à une autre étape et de toute façon, ben, les réformes, il fallait les faire un jour ou l'autre. Est-ce qu'il existe un tel état d'esprit aussi chez vous?
Ben, en fait, il y a une majorité, vous savez, on en a déjà parlé, mais c'est toujours la même fracture, c'est la fracture du...
Il nous reste 20 secondes, Nicolas Vidal, allez-y.
Oui, c'est la fracture de la France, voilà, une fracture mondialisée, proche d'Emmanuel Macron, qui fait très peu de pourcentage en France, aux alentours de 20-22%, et puis la France périphérique, qui, elle, va bâtir, effectivement, cette réforme des retraites, parce qu'elle n'aura pas les moyens pour capitaliser et suivre la politique néolibérale d'Emmanuel Macron.
La division habituelle, donc. Merci beaucoup, Nicolas Vidal, on vous reparle très bientôt. C'était un plaisir de discuter avec vous.
Merci, bonne journée, Nick.
Nick Payne qui vous salue et vous dit à la semaine prochaine.